24B1. 24B1. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait amené les questions, la Gemara avait posé des questions. On avait amené ce que Rabbi Shimon ben Elazar avait dit. Rabbi Shimon ben Elazar avait dit que quand on trouve quelque chose dans un endroit que Rabbi Metsuim Sham, il y a beaucoup, il y a une forte affluence, à Reilu Shelo, on dit que l'objet m'appartient. Pourquoi? Parce qu'on considère que certainement les propriétaires ont abandonné l'objet. Donc ça, c'était ce qu'on avait dit la semaine dernière. Alors, on a posé dessus plusieurs questions, 5 questions pour être précis. Mais le concept des questions était quoi? On a posé la question comme ça. Quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit que dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on peut garder un objet trouvé parce qu'on puisqu'on considère que l'objet a été abandonné par ses propriétaires initiaux. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé dans un endroit dans lequel il y avait une majorité de non-juifs, ou même si c'était dans un endroit dans lequel il y avait une majorité de juifs? Vous n'étiez pas là la semaine dernière, M. Bismuth.
Oui, mais on avait évoqué ça il y a un mois.
Non, ça c'est une nouvelle chose. Après, on a posé la question, on a posé plusieurs autres questions. Donc déjà, il y avait cette fameuse différence. Est-ce qu'il a parlé que dans un endroit dans lequel il y a des juifs, dans lequel il y a des non-juifs, pardon, ou même dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs? C'est une deuxième question qu'on a posée, c'est est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou la halakha n'est pas comme lui? Voilà, donc ça c'était les questions tournées autour de ce point-là. Donc là, on est à la page 24B1, Tashma d'Amar Ravasi, en haut de la page.
Tashma.
C'est Amar Ravasi.
Si.
Quand? Voilà. Ici. Donc c'est du côté.
Page de gauche.
Du côté gauche de la page. Tashma vient de Amar Ravasi. On va essayer de répondre notre premier doute. Ça veut dire pour savoir de quoi Rabbi Shimon ben Elazar a parlé. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé seulement dans un cas dans lequel la majorité des passants du marché, par exemple, sont des goyim, ou même si la majorité des passants du marché sont des juifs, quand même, puisqu'il y a une forte affluence, l'objet m'appartient, puisqu'on considère que le propriétaire initial a certainement abandonné l'objet. Alors regardez bien ce qu'il a dit Ravasi. Matsa Chavit Yaïn. Si une personne a trouvé un tonneau de vin, Be'ir Sherova Knaanim, dans une ville que la majorité est des non-juifs. Je trouve un tonneau dans la ville. Voilà, imaginez-vous, dehors, la rue Paul Enfer, je trouve un tonneau de vin. Tonneau de vin posé. Bon, alors voilà, justement. Donc on a deux problèmes ici. Premier problème qu'on a, c'est est-ce que le propriétaire initial l'a abandonné? Et deuxième problème, c'est est-ce qu'il est cachère? On dit Mouteret Mishum Metia. Le tonneau est permis, Mishum Metia, ça veut dire, en ce qui concerne le premier problème, tu m'as posé de demander est-ce que l'objet m'appartient ou pas? Pour ça je te réponds, je te dis oui, l'objet m'appartient.
C'est important, un tonneau, c'est quelque chose de très grand,
oui.
Personne,
voilà.
C'est pas pour marquer,
à l'époque, c'est un tonnelé. Oui, c'est pas un gros tonneau.
C'est pas pareil, tonnelé, hein.
Un petit fil comme la dernière.
Il dit voilà. Que Mouteret Mishum Metia. Ça veut dire qu'on considère que l'objet t'appartient. Tu peux le prendre. Mais par contre, il y a le deuxième problème que je dis, c'est quoi? C'est le deuxième problème que je dis, c'est que c'est du, est-ce que le vin est cachère ou pas? Puisque la majorité des passants dans cette ville-là sont des non-juifs, donc certainement le vin vient d'un non-juif. Donc c'est pour ça que Vaasura Be'ana'a, on n'a pas le droit de profiter de ce vin. Comme le vin des goyim, c'est-à-dire que du vin des goyim, le vin des goyim, nous on a le droit de le boire, mais on a le droit d'en profiter. J'ai pas le droit de vendre du vin des goyim. Ah oui?
Il y a deux opinions.
Non. Asturbana. Enfin, Asturbana, c'est la façon d'en profiter. Parce que les Rahamim, ils ont fait une xéra sur le vin des non-juifs, que c'est considéré comme si on a fait Avodah Zara, et puisqu'on a fait Avodah Zara, c'est Asturbana. On n'a pas le droit d'en profiter. C'est assez clair, il n'y a pas de. Le vin des goyim, on n'a pas le droit d'en profiter.
Même aujourd'hui,
monsieur.
Celui qui a un magasin d'alimentation, par
on
exemple.
On peut pas profiter de ça. Ça sort.
Je savais pas.
Ouais. Pas un problème.
Bien sûr, c'est un problème. Faut faire attention à ça, les supermarchés, enfin ceux qui ont des petits.
Tu vois ce que je veux dire?
Des trucs comme Franprix ou G20, etc. Faut attention à ça.
Tu m'interpelles, parce que je me souviens que il y a 2 ou 3 ans, j'avais appelé comment il s'appelait, celui qui est une star, le Bédini.
Oui, oui.
Rabibo.
Je vais dire, voilà, j'ai acheté un lot de marchandises, des boissons, et je me suis retrouvé dans le lot de boissons. Quand je suis revenu au magasin, j'ai trouvé qu'il y avait du pinard, du vin.
Ouais.
Alors, il y a eu un flou chez lui, puis il m'a dit, écoutez, il y a deux opinions. Il y a une opinion ashkénaze, une opinion séfarade. Et justement, pour une fois, c'est le contraire. Le séfarade, pas du tout. Touche pas, interdit de faire du négoce de vin, de revendre du vin. Et les Ashkenazim, oui.
Je sais, peut-être qu'il y a eu un changement après la Gemara, mais ce qui est écrit dans la Gemara à traité à Vodazara, qui est ramené ici d'ailleurs, il y en a dans Rashi, c'est que c'est clair, il n'y a pas de quiproquo, le vin qui vient des non-juifs, Stam Yenam, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du vin Stam, il n'y a pas forcément Vodazara, on considère qu'il est Asurbana, on n'a pas le droit ni de le boire ni d'en profiter. Donc, Ravasi dit comme ça, non, peut-être qu'il faudrait vérifier comment est la lacha dans les faits aujourd'hui. Peut-être que ça a changé, mais
c'est vraiment...
Il faut vérifier. Donc on dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que dit Ravasi? Si on a trouvé un tonneau de vin, un tonnelet de vin dans un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit par rapport à Métia, par rapport à la trouvaille, c'est permis. On considère que ça appartient. Par contre, va Sura Ba'ana'a, on n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant écoutez bien la suite, ça va être chaud. Ba Israël, Natan Ba Siman. Si maintenant un Israël est venu et il a donné un Siman. Un Israël est venu, d'accord, c'est-à-dire un juif est venu, il a dit, j'ai entendu que tu as trouvé un tonneau de vin, je te donne un siman. Siman que...
Il est caché.
C'est sûr, c'est sûr que ça peut être que le vin qui vient du juif.
Il y a un bouchon vert, c'est Yaakov qui...
Donc là, dans ce cas-là, on sait que le vin n'est plus d'un non-juif.
Ouais.
D'accord. Donc est-ce qu'on a le droit de boire le vin?
Attendez.
Oui. De boire le vin.
Mais on a un problème là.
Mais là le problème qu'on a,
c'est savoir à qui il est
maintenant. Qu'on sait à qui il est maintenant. Je sais à qui il est.
Il a pas payé ou
je... Écoutez bien. Mouter, justement, c'est ça le. Ça va être chaud. Mouteret les mots A. D'accord. Mouteret bichia les mots A.
Scandale.
Puisque la majorité des gens de la ville sont des non-juifs, donc, et on va expliquer ça dans la suite, on considère que la majorité des passants. La majorité, pardon, des passants de la ville sont des non-juifs. Donc, certainement, qu'il a fait Yéhouch. Même si, on verra après dans la Gemara, même si les propriétaires, j'ai pas fait Yéhouch. On a des statistiques qui disent que normalement, t'as fait Yéhouch.
C'est comme si t'as dit l'autre fois que quelqu'un perd quelque chose dans la mer, lorsqu'il a fait Yéhouch, alors qu'il a pas...
Voilà, oui. C'est vrai, c'est un petit peu quand même. Mais là, c'est un peu différent, c'est pas la mer quand même. C'est-à-dire que là, on retrouve l'objet, et je te donne un siman. Ce qui se passe seulement, c'est que le siman, je vais croire ton siman. La preuve, c'est que grâce à ton siman, je vais pouvoir boire ce vin. C'est ça la force.
Oui.
Ça veut dire que je crois ton siman. Je dis, je crois, je te crois, tu as raison. Et quand même, je le garde.
Chouette, c'est encore mieux, je peux voir.
Pourquoi? Parce que, justement, on va en parler. Alors, on va parler aussi, est-ce que celui qui veut faire mieux que le dîne, est-ce qu'il doit rendre, etc. On va parler. Keman, donc avec ce que dit Ravasi, on veut répondre à notre question qu'on avait posée. On a demandé, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé que dans un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, ou même dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs. La Gemara a dit, Keman, a priori, comme qui va ce que Ravasi a dit, que Rabbi Shimon ben Elazar. Car Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit, que c'est le seul qui a dit, qui nous a appris ce concept, que dès qu'il y a beaucoup de monde, dès qu'il y a une forte affluence, le propriétaire abandonne son objet. Shimamina, de là j'apprends. Qui, kama Rabbi Shimon ben Elazar, berov knanim, aval berov Israël, lo. Rappelez-vous, c'était quoi la question? On a posé la question, on a dit... Est-ce quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit que si on trouve un objet dans un endroit dans lequel il y a une majorité de... dans lequel il y a beaucoup de monde. On a dit que puisqu'il y a une forte affluence, on considère que le propriétaire initial a abandonné l'objet. On a posé une question, on a dit oui, mais de quoi tu parles? Dans un endroit dans lequel la forte affluence est de juifs ou de non-juifs?
Et encore même ça, ça me...
Je dis qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire on vient de voir ici. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce que Ravasi a dit? Matsa Chavit Be'ir Sherouba Knanim. S'il a trouvé un tonneau dans une ville dans laquelle il y a une majorité de non-juifs. Alors c'est vrai que c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar qui a parlé, c'est Ravasi. Mais la seule personne qui nous a appris ce concept-là, que dès qu'il y a une forte affluence, on considère que le propriétaire initial a abandonné, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Ravasi, qui est un Amora, qui vient après Rabbi Shimon ben Elazar, certainement qu'il a répété les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar, qui n'est pas forcément son maître, certainement qu'il a répété quelque chose de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc avec ça, la Gemara voudrait répondre à la question. Et de dire que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé uniquement dans un cas dans lequel il y a une majorité de non-juifs. Mais si c'est un marché, par exemple, dans lequel il y a une majorité de juifs, là, dans ce cas-là, même s'il y a une forte affluence, il faudrait rendre l'objet. La Gemara va casser cette preuve-là. La Gemara dit non. Le'olam emalecha, Rabbi Shimon ben Elazar a fui le Béram Israël. Je ne dis pas du tout, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Très simple, parce que dans la braïta que j'ai amenée ici, il n'y a pas écrit le nom Rabbi Shimon ben Elazar, c'était Ravasi qui a parlé. Seulement tu m'as dit, certainement que puisque celui qui nous a pris ce concept-là, que dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on considère que le propriétaire initial abandonné, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, donc certainement que Ravasi suit la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. Je dis non. Peut-être que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, pense que même s'il y avait une majorité de juifs, c'est bon. C'est Rav Asi qui est venu par derrière, que lui, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que sur la moitié. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que... Je peux te dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que ce soit qu'il y a une majorité de juifs ou une majorité de non-juifs, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que l'objet est perdu, Yehush. Seulement Rav Asi qui est venu par derrière, lui dit, moi j'ai fait le juste milieu entre Rabbi Shimon ben Elazar, je suis d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que sur le cas de... Dans le cas de la majorité de Cananéens. Donc est-ce qu'on a une preuve ? Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar ? On n'a pas de preuve, on ne sait pas. Peut-être, attention, peut-être que Rav Asi il explique la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. Peut-être oui, peut-être non. Donc on a l'habitude dans l'esprit de la Gemara, quand on n'est pas sûr, quand on est tant qu'une preuve n'est pas fiable à 100%, il n'y a pas de preuve. Donc, Verabasi, savoir la cavate bechada, ou faligale bechada. Très bien. Il y a une question que j'attendais que vous allez me poser. Bon, là on va ouvrir une petite parenthèse. Donc bon, on a essayé de répondre à la question, on n'a pas répondu. Bon, donc du coup on retourne à la case départ, on ne sait pas qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'il parle que dans un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, ou même où il parle également dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs. On ne sait pas pour l'instant. Mais il y a quand même une question qui nous a dérangé dans la baraita qu'on a amenée au nom de Rav Asi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Asi ? S'il a dit, si je trouve un tonnelier de vin dans une ville qui a une majorité de Cananéens, bon, peut-être, on a dit que Mouteret Mishum Metsia, j'ai le droit de la prendre, parce qu'on considère que le propriétaire l'a abandonné, mais Vasurabana, j'ai pas le droit d'en profiter. Alors, il y a une question très simple. Si j'ai pas le droit d'en profiter, alors pourquoi tu veux que je la prenne ? Qu'est-ce que je veux faire avec ? J'ai pas le droit d'en profiter.
Qu'est-ce que ça s'appelle profiter ?
Profiter, c'est même
pas. La vendre, l'offrir,
rien. Même l'offrir au concierge, j'ai pas le droit.
Encore pire.
Même le frère au concierge, j'ai pas le droit.
Alors profiter, ça veut dire
que ça. En passant, c'est pour non, ça que c'est pour ça que au concierge, on peut pas offrir une bouteille de vin. Même si je lui dis, je vais acheter une bouteille de vin au supermarché, je l'offre au concierge, moi je veux pas l'avoir, c'est assourd. Parce que Stam Yenam, c'est assourd, banan, on n'a pas le droit d'en profiter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'est une halakha, il y a pas d'équivoque dessus. C'est clair. On n'a pas le droit d'en profiter.
Donc quelque chose de caché au concierge.
Voilà, quelque chose de caché. Donc il n'y a pas de problème. Donc Akmara dit comme ça. Donc Akmara pose une question très simple. Elle dit, puisque tu m'as dit que j'ai le droit de la prendre, Mishum Metsia, c'est-à-dire qu'on considère que le propriétaire l'a abandonné, mais j'ai pas le droit d'en profiter. Alors si je veux pas en profiter, pourquoi je la prends ? Qu'est-ce que je vais faire avec ? Ça sert à rien.
Peut-être la bouteille elle-même, en dehors du liquide qui est à l'intérieur, elle a une valeur.
On va voir.
Ouais, c'est un tonnelier.
Il est en or.
Akmara dit, Pri Machar de Asirabana, dans les mots de l'Akmara. Puisque le tonneau est assurbana, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter, comme le Khamet, alors dans ce cas-là, Mouteret Mishum Metsia, les mailles, le Kheta. Dans ce cas-là, comment tu me dis qu'on a le droit d'en profiter ? Quand tu me dis qu'on a le droit de la prendre, pardon, qu'on a le droit de la prendre, Mishum Metsia, mais je vais faire quoi avec ? Tu me poses la question ? Tu me dis que j'ai le droit de la prendre, mais je n'ai pas le droit d'en profiter. À quoi sert alors ? Ni je peux boire ce vin, ni je peux en profiter.
Ouais, ça,
ni je peux
comme il a
le la réponse d'Agmara, voilà, Hazak, ouais. Amar Ravashi, Ravashi, le conteneur. Ouais. Amar Ravashi, Ravashi a répondu, en vérité, les canne-canards, à quoi ça va me servir ? C'est vrai que dans le vin, quand c'est dû à Inesser, on n'a pas le droit. Quand c'est dû à Inesser, on n'a pas le droit de profiter de. On n'a pas le droit de profiter du vin, certes, on n'a pas le droit de profiter ni du vin, d'accord ? Ni de le boire, très bien. Mais on aura de profiter les cancana. C'est quoi cancana ? C'est à la cruche elle-même.
D'où vient le mot canne ?
Canne ? Un poulet, ça qu'il y a un poulet, si tu veux garder, je sais pas quoi, une maison, il y avait un poulet, et là, il y avait des trésors.
Il avait ? Ah oui, oui, oui.
C'est
ça
qu'elle
va ah, bah Ravashi. Donc Ravashi a répondu. Les cancana. Les cancana, c'est pour. Les cancana, ça veut dire c'est pour pouvoir profiter de du tonneau. D'accord ?
Okay.
Donc, est-ce qu'on a une réponse à notre question ? On n'a toujours pas de réponse à la question. On ne sait toujours pas qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar, puisque ce qu'on a amené ici avec Rav Asi, c'est toujours pas une preuve. Puisque on a montré que Rav Asi est venu des dizaines d'années plus tard après Rabbi Shimon ben Elazar, et rien ne nous dit qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Donc c'est pas une preuve. Très bien. C'est logique. Et maintenant, on raconte une histoire. Et avec cette histoire, on pourra peut-être répondre une partie de nos doutes. Aou Gavra, il y avait un homme. Là, la Gemara va raconter plusieurs histoires dans la suite. Et chaque fois, on va essayer d'analyser ensemble ces histoires pour voir est-ce qu'on peut répondre à nos questions.
Gavra, c'est un homme, hein ?
Oui, Gavra, c'est un homme.
Costa Gavra, le metteur en scène.
Ah, Gavra, c'était un homme. Deashkar Arba Zouzé. Qui a trouvé 4 zouz. Donc 4 zouz, c'est donc 4 dinars, c'est la pièce de l'époque. Des Tsaire Bezdina.
Dinar italien ?
Il les a trouvés. Il a trouvé 4 pièces qui étaient de Tsare Besdina, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était enfermé dans un vêtement. D'accord, ça veut dire qu'il était dans une bourse.
Il péchait, et l'hameçon il l'a attrapé, il l'a tiré, bon.
Oujdou, Benar, Biran. Ils étaient jetés dans le fleuve de Biran. Bon. Atal et Kamé de Rav Yehuda. Il est venu devant Rav Yehuda pour demander qu'est-ce que je fais avec cet argent que j'ai trouvé. C'est un argent dans lequel il y a un siman. Puisque on voit clairement que c'était cousu d'une certaine manière, etc. On voit clairement qu'il y a un siman. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il a répondu Rav Yehuda? Amarle, il a répondu Rav Yehuda. Zdil Achiz. Il a dit, tu vas proclamer. Proclamer, j'ai trouvé de l'argent dans le fleuve de Biran. Celui qui pense l'avoir perdu, il peut me le retrouver avec un siman. Donc quel siman il dira à la personne? Il dira, oui, il était attaché dans une bourse. Très bien. Et non.
Le nombre de pièces,
c'est un siman. Mais c'est un siman, dans ce cas-là, c'est clair que c'est pas un siman. Mais par contre, là, on a un siman très très fort, c'est quoi? C'est que c'est qu'ils sont cousus. Ils sont cousus d'une certaine manière que personne ne fait comme ça. Alors, Gmara pose la question. Enfin, donc un peu pour revenir à ce que M. Bessy nous avait dit tout à l'heure. Elle dit, il me fait, ah, mais voilà, Zout Oshelyam, ou, voilà, a priori, qu'est-ce qu'on avait expliqué il y a trois semaines? On avait expliqué que quand on trouve un objet au fond de la mer, qu'est-ce qu'on a dit? D'accord? Même si le propriétaire ne l'a pas abandonné, on dit, monsieur, quand un objet tombe au fond de la mer, on l'abandonne? Donc,
la
Gemara pose la question, elle dit, a priori, avant même d'analyser, on pose la question sur Rav Yehuda, on dit, comment Rav Yehuda a pu dire que je dois proclamer? On l'a trouvé au fond de la mer. Enfin, c'est pas la mer, peut-être, mais c'est un fleuve, c'est la même chose, c'est le même concept.
C'est lui qui avait dit avant, c'était Rabbi Yehuda.
Non, c'est le Mishnah, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'il répond à l'Agmara? L'Agmara dit, Shani Nar Biran, c'est différent, le fleuve de Biran. Pourquoi? Kevin Demit Kil Lomiesh. Le fleuve de Biran est différent. Pourquoi? Parce qu'on raconte que dans le fleuve de Biran, il y avait beaucoup de pierres, et il y avait beaucoup de barrières qui étaient faites pour pouvoir capturer les poissons très facilement. Et alors? Kevin de Mitki, donc puisque c'était un fleuve dans lequel il y avait beaucoup d'obstacles, donc, à ce moment-là, l'omillage, le propriétaire n'abandonne pas. Ça veut dire comme ça. Quand c'est un fleuve standard, c'est pas la mer, hein, attention, c'est un fleuve. Quand c'est un fleuve standard, là, le propriétaire abandonne. Mais là, comme c'est un fleuve dans lequel il y a des obstacles, donc on sait que même si j'ai un objet qui est tombé, il pourra pas partir bien loin. Oui? Vous me suivez? Puisqu'il pourra pas partir bien loin.
Ça dépend s'il y a des courants.
Donc, c'est pour ça que l'omillage, le propriétaire n'abandonne pas. Donc, c'est pour ça, et d'ailleurs on va expliquer juste après, c'est pour ça que Rav Yehuda aurait dit qu'il faut proclamer, l'objet, l'argent qu'on a trouvé. Très bien. Alors la Gemara a dit, on va analyser cette histoire maintenant. Et on va montrer comment a priori de cette histoire, on peut répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure, de quoi Rav Shimon ben Elazar a parlé. De là on apprend que Rouvak Naniminou, a priori, la majorité des gens qui habitaient à côté de Nar Biran c'est un fleuve qui est à côté de Babylone, C'est des non-juifs. Ah oui, on est en Galoute, la majorité c'est des non-juifs.
C'est où ça se passe, d'accord, là?
Là-bas, en Babylonie.
Babylonie.
À Biran, c'est en Babylonie.
Non, c'est le fleuve de Biran, comme j'aurais dit aujourd'hui, la Seine, le canal, c'est le nom, le fleuve de Biran.
Châtel bon. Arabe.
Donc on dit comme ça, fait, ah voilà, Rova Kenani Minou. Voilà, la majorité des gens qui se trouvent dans cet endroit-là, c'est des Cananéens. Et quand même, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Rav Yehuda a obligé à...
Proclamer
l'objet. Shema Mina, de là j'apprends. En alacha que Rabbi Shimon ben Elazar, afilu berov knanim. Donc de là j'apprends que la alacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, puisque même dans un endroit dans lequel il y a rov knanim, il y a une majorité de non-juifs.
Même pourquoi? Pas comme Ravasi d'ailleurs.
Oui. Pourquoi? Non, Ravasi on peut pas savoir parce que oui, d'accord, t'as raison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a vu ici? Rabbi Yehuda, pour comprendre cette preuve-là, il faut comprendre un autre principe de base dans la Gemara. C'est que le principe de base, il est comme ça. Quand un Rav, il vient, un Amora, il vient, donc il vient après la génération des Tanaïm, surtout quand c'est un Amora de l'envergure de Rav Yehuda, et qu'on lui pose une question, et il répond à la halakha. Rav Yehuda est au courant qu'il y a eu une machloket dans le passé entre Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim. Et la réponse que donne Rav Yehuda, c'est certainement la halakha qu'il faut suivre. C'est pour ça que ça arrive très souvent, ça, dans la halakha. Très souvent, on a une Mishnah. Et après dans la Gemara prouve que la Mishnah il y a un problème, donc on dit c'est pas, il faut expliquer le contraire de la Mishnah, parce que certainement elle l'a mal enseigné. Comme qui on dira la halakha dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch?
Comme
la Gemara. Comme la Gemara, pas comme la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'on considère que plus on est batraé, plus le Tana ou la Mora était dernier, et on considère qu'il était au courant de ce qui, a été dit avant. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda ici? Rav Yehuda ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans un endroit dans lequel il y a une majorité de, non-juifs. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Et bien que c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, qu'est-ce qu'il a dit? Messieurs?
Il a dit que leur problème est.
Pourtant, normalement, c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, il y a beaucoup de pêcheurs, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que bien que c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, et pas seulement ça, bien que c'est un endroit dans lequel on a dit qu'il y a une majorité de Cananéens, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une obligation de
proclamer.
Donc, à plus forte raison, c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de Juifs. Donc, de là, on apprendrait que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar.
Oui, mais c'est encore un cas particulier.
Pourquoi?
Peut-être Rabbi Shimon ben Elazar, il serait d'accord avec Tu parlais pas d'un cas où il y avait des avantages.
Je vous pose un silo si vous me le rendez.
Tenez, madame Massouine.
Si vous me le rendez, c'est tout.
Encore un cas particulier, puisqu'il...
Alors, oui, j'ai pas compris. Quoi? Excuse-moi.
Ça se trouve... Rabbi Elazar, il serait d'accord avec ça, avec aussi avec Shimon
Rabbi Yehuda, oui.
Est-ce que c'est un cas particulier?
Pourquoi c'est un cas particulier?
Est-ce qu'il y a des obstacles dans la...
Non, au contraire.
Non, c'est pas seulement qu'il y a des obstacles, c'est que c'est...
Le fait qu'il y ait des obstacles, ça a prouvé... Non. Normalement, quand c'est le fond de la mer, donc normalement, il ne faut même pas proclamer, c'est considéré comme abandonné. Le cas particulier, c'était pour te montrer que c'est pas un cas... que c'est pas un cas comme le fond de la mer, puisqu'on considère que la personne compte le retrouver. Donc c'est comme la place du marché maintenant, c'est la même chose. Tu comprends, il n'y a rien de particulier.
Oui, on considère que la rivière, c'est pas comme la mer.
Tu comprends ce que je veux te dire?
Non, mais il y a un cas qui est particulier.
Le cas, au début, c'est au contraire, c'est au début que c'est un cas particulier. Parce qu'au début, on te dit que c'était au fond de la mer. Enfin, c'était au fond d'un fleuve. Et puis c'est au fond d'un fleuve, donc la personne, elle a abandonné obligatoirement. Qu'est-ce qu'on te répond? On te dit non. C'est un cas dans lequel il y a tellement de barrages, d'accord, comme on expliquera après. Ce qui fait que, dans les faits, même une personne qui a perdu un objet, il l'abandonne pas. C'est déjà arrivé de faire tomber un objet dans un torrent. T'as déjà vu un torrent?
Non, je sais pas.
Un torrent, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup d'eau.
Dans mon lavabo, j'ai abandonné une bague.
Il y a un torrent.
Dans mon lavabo, alors.
Un torrent, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup d'eau. L'eau, elle coule très très vite. Mais il y a des obstacles partout. Il y a des pierres, tout ça. Même si tu fais tomber un objet, en général, tu le retrouves. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'obstacles qui fait que, même si l'eau, elle avance très très vite, il va se coincer quelque part. C'est une histoire de quelques mètres. Il est obligé de se coincer. Très bien. Donc nous, au début, on croyait que Nahr Biran, le fleuve de Biran, c'était comme le fond de la mer. C'est pour ça qu'on a dit, mais pourquoi Rabbi Yehuda a dit qu'il faut proclamer? On t'a dit non. Le fleuve de Biran, c'est pas un endroit qui est comme le fond de la mer. Pourquoi? Parce que comme il y a des obstacles, donc la personne n'a pas abandonné. Donc ce Nahr Biran devient comme la place du marché. Puisqu'il n'a plus la spécificité de la mer. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu ici, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Bien que c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de Cananéens, il faut proclamer. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il penserait le contraire de Rabbi Shimon ben Elazar. Non seulement si c'est une majorité de Juifs, mais même si c'est une majorité de non-Juifs, s'il y a un siman, il faut proclamer. Alors que selon Rabbi Shimon ben Elazar, au moins dans un des cas, ou juif ou non-juif, il faut dire que même s'il y a un siman, il ne faut pas proclamer.
Oui, mais c'est différent, parce qu'il parle de la rivière, alors qu'il parle de la mer.
Ça change pas, le concept est le même.
Ah non.
Non.
Parce qu'il y a une enquête qui est...
On a expliqué que la rivière, c'est comme le marché. Pourquoi? Parce que cette rivière-là, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas la spécificité de la mer. C'est quoi la spécificité de la mer? C'est quand une personne perd un objet, qu'on ne peut pas le retrouver. Là, il n'y a pas la spécificité de la mer. Donc, ça devient comme la place du marché. Qu'est-ce qu'il a dit à Viuda? S'il vit dans lequel il y a une majorité de Cananéens, il peut proclamer. Donc, a priori, de là, on apprendrait que la halakha n'est pas comme... Rabbi Shimon ben Elazar. Répond la Gemara, dit non. Dit Shani Nahr Biran. C'est différent le fleuve de Biran. Là, on apprend de l'histoire. Pourquoi? C'est comme M. Bismuth.
Oui.
Alors, des Israël, ça roule. Le fleuve de Biran, mis à part ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant.
C'est un cas particulier.
D'accord. Mais pourquoi c'est un cas particulier?
Parce que là-dedans, ils disent que qu'est-ce qui a fait les obstacles.
Non, jusqu'à
les sapeurs.
Jusqu'à présent, c'est pas un cas particulier. Parce que jusqu'à présent, on a expliqué que le fleuve, c'est pas un cas particulier, puisque le fleuve, comme il y a des obstacles, donc les personnes n'abandonnent pas leur objet. Très bien. Maintenant, on va expliquer que c'est un cas particulier.
Oui, mais Rabbi Yehuda, il devait savoir ça.
Alors, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, Shani Nahr Biran, c'est différent le fleuve de Biran, d'Israël, ça roulait. Ce fleuve-là,
Une espèce.
Il est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que ceux qui faisaient de plusieurs fois par année, encore plusieurs fois par année, comme c'est un endroit dans lequel il y avait beaucoup d'obstacles, donc vous savez que le problème qu'on a dans cet endroit-là, c'est que ça ramasse beaucoup de saleté. Malheureusement. C'est comme les torrents. Un torrent, ça ramasse beaucoup, c'est très sale. Alors surtout, dans le torrent, Baruch HaShem, on a une chance, c'est que comme il y a une forte affluence, il y a beaucoup d'eau, et il y a des crues, etc. Donc ça fait que Kadosh Baruch Hu, il fait par la nature que ça se nettoie. Mais quand c'est un fleuve, c'est pas un torrent, c'est un fleuve dans lequel il y a des obstacles, naturellement, vous pouvez vous imaginer que le fleuve devient très très sale. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Plusieurs fois par année, on faisait un barrage.
Ça s'appelle braguer.
D'accord?
Endiguer, il appelle ça.
Endiguer, oui. C'est une bonne traduction. Pourquoi on fait un barrage? À quoi il sert le barrage? Le barrage, il sert à bloquer l'eau, d'accord? De manière à ce qu'après l'eau donc s'arrête de couler. Et puisque l'eau s'arrête de couler, donc après, l'eau qui est déjà là va partir, et on pourra nettoyer tranquillement le fleuve. Ou c'est un fleuve qui ne devait pas être très profond. C'est un fleuve surtout dans lequel il y avait des poissons, et on pouvait
pêcher
les poissons très facilement. C'est quoi le problème? C'est quoi la spécificité de notre cas? La spécificité, c'est que c'est vrai que la majorité des passants dans cette ville sont des non-juifs. Mais qui c'est qui a la société de barrage? Les juifs.
C'est le père de Zoro.
D'accord? C'est un fait, d'accord? C'est un fait. C'était comme ça.
C'est lui qui bosse.
Des Israël s'arroulaient. Des gammes Israël caroulaient. À part ça, non seulement donc c'est eux qui font les barrages, et c'est aussi qui creusent. Parce que, encore une fois, des fois avec la saleté, il y a tellement de terre qui s'annonce que du coup, c'est plus aussi, il n'y a plus des trous comme avant. Donc c'est le juif qui font l'entretien en d'autres termes, c'est le juif qui s'occupe de l'entretien de ce.
Ah, ça c'est pas évident, tu vois, parce que.
Non.
Tu veux me dire que si c'est lui qui gère, c'est pas eux qui s'occupent de l'entretien.
Non, c'est-à-dire que la probabilité non. est bien plus
à savoir, c'est un cas particulier.
C'est un fait, voilà. C'est un fait, c'est pas qu'on imagine, c'est un fait, c'était comme ça.
C'est un cas particulier.
D'accord? C'est pour ça que je dis qu'on sert l'histoire. Donc, Kevin de Israël Tsachoulé, Imom Israël Nafal. Donc là, j'ai une plus forte probabilité de dire que puisque c'est les juifs qui font en général le barrage, certainement que c'est tombé d'un juif. Ah oui, parce que les juifs ont plus, il y a plus de fréquence, bien que dans la ville il y ait plus de non-juifs, mais il y a plus de fréquence de juifs autour de ce barrage que de non-juifs.
Donc c'est pour ça qu'ils proclament.
Donc c'est pour ça qu'ils proclament.
Et puis les juifs, ils ont
donc un matin, c'est pas en contradiction avec...
Non, c'est pas en contradiction. D'accord? Très bien. Donc on n'a toujours pas de réponse à notre question. Est-ce qu'on sait ce que Rabbi Shimon ben Elazar pense? On ne sait pas. Et ni on sait quelle serait la halakha. Continue la Gemara. Avec une autre histoire. Rabbi Yehuda, Ava Shakil Vazil Vatré de Marshmuel. Rabbi Yehuda, il marchait derrière Marshmuel. Alors il faut savoir que c'est une habitude qu'il y avait à l'époque. Chut. Rabbi Yehuda, d'accord? Il marchait, donc ce fameux Rabbi Yehuda qu'on vient de parler, il marchait derrière Marshmuel. Alors, il faut savoir que un maître, d'accord, quand il marche avec son élève, il y a une mitzvah sur l'élève, l'élève ne peut pas marcher ni à la droite ni à la gauche du maître, l'élève doit marcher derrière son maître. Et c'est pas exactement derrière, mais un petit peu vers le côté. Bon. Donc, on nous raconte que Rav Yehuda marchait derrière Marshmuel. Ça veut dire qu'il était l'élève de Rav Shmuel. Et où il marchait? Beshuke de Bedaïsa. Beshuke de Bedaïsa.
Dans le marché.
Où on vendait Bedaïsa, c'est quoi Daïsa? Ça veut dire où on vendait du blé concassé, et avec ce blé concassé, on faisait de la semoule. D'accord? Bon. Donc une semoule, le blé concassé, il appelle ça?
Concassé.
Blé concassé, non, c'est un peu...
C'est boule gourde.
Ouais, concassé, alors, c'est pilé, quoi.
Donc c'est un marché dans lequel on vend du blé pilé, et c'est un marché dans lequel il y a beaucoup de monde. Très bien. Et Rav Yehuda, il pose la question, donc Rav Yehuda, c'est l'élève, il pose la question à son maître, qui est Shmuel. Il pose la question à Marl et il lui a dit « Mat Sakan Arneki ». Si une personne trouve ici un porte-monnaie, Mao, qu'elle le dit. Donc, il le met devant une situation. Il dit « Voilà, on est à la place du marché. » D'accord ? On est à la place du marché. Et, a priori, c'est une place du marché dans laquelle il y a une majorité de...
Juifs.
Non-juifs.
Ah bon ?
A priori, pour l'instant. D'accord ?
On ne sait pas vraiment.
Bien, bien, bien. D'accord ? Mais pour l'instant, on dirait que c'est un endroit dans lequel il y a une majorité... de ton juif. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si une personne a trouvé un porte, donc il pose la question, il dit si une personne a trouvé un portefeuille, qu'elle le dit. Il pose la question à son rab. C'est une manière intéressante de poser les questions. Vous voyez, il le met devant une situation, il lui pose la question. À Marley, Shmuel lui a répondu, Arelou Shelo. Il a dit, l'objet lui appartient. Même s'il y a un siman, l'objet lui appartient. Pourquoi? Puisque, puisque c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on considère que, certainement, le propriétaire l'a abandonné. Maintenant, il continue l'élève, Rti, qui pose la question. Bah, Israël, mais la tête bas siman.
Eh oui.
Si un juif est venu et donne un siman, il dit oui, j'ai entendu qu'il trouve un portefeuille, mais c'est le mien, il y avait même les initiales, il y avait tant et tant de billets, etc. Un siman, valide. Mahou, qu'elle le dit. Alors, il lui a répondu Shmuel, avant de lui dire, Khayav l'Arzir, il a l'obligation de rendre.
Avant, tu parlais d'un autre juif alors.
Oui, c'est clair. Alors, Amar lui a posé la question, non pardon, il lui a dit Tarté, mais je comprends pas les deux, c'est pas possible, une contradiction. D'un côté, tu me dis que ça m'appartient. Si tu me dis que ça m'appartient, ça veut dire que tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné. Après, tu me dis, si le propriétaire, s'il y a quelqu'un qui vient me donner un siman, je dois lui rendre. Mais pourquoi je dois lui rendre? J'ai pas l'obligation de rendre. Pourquoi? Parce que, comme on verra après...
On n'a même pas proclamé, de toute façon.
Oui, j'ai même pas proclamé.
C'est-à-dire qu'on a entendu la rumeur.
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir le principe qu'on a dit ici. Que même ce que le... Qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein?
Non, c'est bon, vas-y. Ça va.
Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que... On considère que le propriétaire initial l'a certainement abandonné, donc s'il a abandonné, je peux le prendre. Et même si après, je retrouve le propriétaire initial et dit « c'était à moi », on considère que monsieur c'est trop tard.
J'ai consommé.
Non, c'est pas j'ai consommé, on considère que tu as abandonné l'objet. Alors, il pose la question...
Il amène des témoins,
il pose la question. Dire,
on l'entendait se lamenter tous les jours, il disait
«
je vais le retrouver à HM, j'en ai besoin !»
Très bien, là on verra après.
J'ai fait ça.
D'accord, moi. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On va parler tout de suite. Donc là, c'est Rav Yehuda toujours qui pose la question à Shmuel, elle lui dit comment c'est possible, une contradiction. Vous comprenez la contradiction. D'un côté, tu me dis que Aré Louchelo, c'est à lui. Donc si c'est à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que le propriétaire initial a déjà fait Yehush. D'un autre côté, tu me dis, si un Israël est venu, il a donné un siman, quel est le din? Il faut lui rendre. Mais pourquoi tu dois lui rendre si tu me dis que le propriétaire initial a déjà fait Yehush?
Dans le premier cas, on a l'impression qu'il n'y a pas de siman dans le premier cas.
Si, il y a un siman.
Si, ben, dans le premier cas,
si,
il a trouvé une bourse.
Non, mais il y a un siman, il y a un siman.
Et pourquoi alors, si un siman, pourquoi il dit, mais...
Et... C'est Rachid qui explique. Rachid qui explique, il dit qu'on parle même d'un gars qui a un siman. Il y a un siman. C'est la question qu'il a posée.
Mais il a fait Yehush, j'ai dit, certainement, ils vont...
Ah bah, en principe, si c'est un autre...
Enfin, en passant, Yaakov, en général, dans un portefeuille, il y a toujours un siman.
Mais il n'y a pas forcément un siman, Yaakov.
Dans un portefeuille, dans une bourse, il y a toujours un siman, puisqu'il y a un nombre. Le nombre n'est pas standard. Donc déjà, le nombre est un siman. Donc il y a obligatoirement un siman. À moins qu'il y a une pièce. Là, il n'y a pas un siman.
Bon. Un
billet. Il lui dit...
Ou un billet, ouais.
Bah, Israël, Venatan, va, siman.
Oui.
Alors, si, il en essaie de dire qu'il y en avait pas au départ, parce que...
Non. Ça veut dire, si, hein, Israël est venu, alors, et il a dit, c'est à moi.
Alors, pourquoi...
Et pas seulement il a dit, c'est à moi, il a donné un siman.
Qu'il avait déjà,
d'accord.
C'est un portefeuille vert.
Il a dit, voilà, c'est un portefeuille vert, il avait 30 pièces. Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut lui rendre. Alors, il pose la question à Rav Yehuda, il dit, mais je comprends pas, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que je peux le prendre, ça veut dire que tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné, sinon j'aurais dû proclamer. D'un autre côté, tu me dis que si un Israël vient et dans la semaine, il faut lui rendre. Bah, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il répond? Amar, il lui a répondu, et là on a une grande base. D'accord. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, l'ifni mishuratani.
Magnifique.
Quand je t'ai dit qu'il faut lui rendre, d'accord, de quoi je parle, c'est l'ifni mishuratadin. Ça veut dire que tu as raison que halakhiquement parlant, j'ai pas l'obligation de le rendre. C'est-à-dire que même s'il vient et te dit c'est à moi, je dis monsieur, halakhiquement parlant, je considère que tu l'as abandonné, donc je le garde. Il est à moi. Mais si tu veux faire mieux que le din, au-delà de la halakha, tu dois le rendre. C'est pour ça que on a amené la halakha donc dans le Maïmonide, d'accord, et dans le Shulchan Aruch, que bien que quand on trouve un objet, quand on trouve un objet dans un cas dans lequel on n'a pas l'obligation de le rendre, eh ben je peux le garder, il est à moi. Et même si il y a une personne qui vient après qui me dit c'est à moi, il me donne un siman, je peux le garder. Mais celui qui veut faire mieux que le din, qui veut faire Kiddush Hashem, qui veut sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, hein, on lui dit que c'est bien de le rendre, mais il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire.
Bizarrement formulé quand
même. Oui, alors justement, et là, il y a des commentaires qui posent la question, il dit mais quand même, on a vu qu'il a dit Chayav la Khazir, voilà. Il y a l'obligation de le rendre. Alors, il y a un commentaire qui s'appelle Rabbeinu Yonatan, voilà, qui ramène dans Shtem Koubetet, qui dit que quand c'est Adam Khashuv, quand c'est un homme important, il a l'obligation de faire mieux que le dit.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'ici, il était Khayav de rendre.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce que les gens vont parler, on dira, ah, t'as vu, il est venu, il a dit c'est à moi. Maintenant, les gens ne savent pas que la vérité, c'est que ça lui appartient. Vous comprenez? Vous avez vu, dès que je vous ai dit, ça vous a choqué. Il vous a dit, oui, mais ça lui appartient. Vous avez dit, oui, mais il est venu, il dit c'est à moi, il donne le siman. Et il donne un siman, c'est à moi. On te dit non, désolé, c'est trop tard, tu l'as abandonné. On peut avoir un problème de Khilul Hashem. Donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires qui pensent.
On doit s'attendre à ce que si c'est quelqu'un d'important qui fasse ce geste.
Voilà. Et il y en a qui vont plus loin que ça. Il y en a qui disent qu'en vérité, on exige à chaque personne du peuple juif d'être de se comporter mieux que le dîne et de rendre. Bon, dans les faits, la halakha n'est pas comme ça.
J'ai quand même un truc là, au corps défendant des non-juifs.
Oui.
On peut être dans une ville de haute moralité, même parmi des Cananéens.
Oui, mais ça change pas. La mitzvah de la Shabbat Aveda n'est que sur des juifs. C'est écrit « Chol Avedat Achicha » pour toute la perte de ton frère.
D'accord.
Donc de là, on apprend que la mitzvah de la Shabbat Aveda est que pour, et que pour, et que si c'est des juifs.
Oui, mais cette règle de
Ah, de l'esprit Mishurat Hadin. Bien sûr. Cette règle de l'esprit Mishurat Hadin, au contraire, elle est plus forte.
Bien sûr, parce que là, il y a du Shachem.
Bien sûr, le Kiddush Hashem est encore plus fort. 100%. Donc, « Kihad Avua de Shmuel » Et on va amener un exemple pour montrer que l'ifni mishurat hadin, mieux que le din, il faut toujours rendre, même si on n'a pas l'obligation. Kiha, tu es dans les mots? Kiha de avuod de Shmuel, comme l'histoire qui s'est passée avec le père de Shmuel. Ashkar ana chamare bimadbera. Il a trouvé des ânes, d'accord, bimadbera dans le désert. Bah, c'était quelqu'un qui se baladait dans le désert. Le père de Shmuel, il a trouvé des ânes dans le désert. Bon. Veadrin ou les marayou, il les a rendus à leur maître. Les bâtards tressa yachreshata au bout de 12 Rosh Chodesh. Ça veut dire au bout de 12 mois, au bout d'un an. Alors comment c'est passé, Il est marqué dans notre Rashi de Sfat, comment c'est passé. Rashi dit que Shmuel, le père de Shmuel, est venu. Il a vu des ânes. Mais bon, il les a laissés parce qu'il a dit peut-être que le propriétaire est parti, il va revenir. Et 12 mois plus tard, il est revenu. Les ânes étaient toujours là. De quoi ils se sont nourris? Ben certainement qu'il y avait du pâturage autour, il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il faut. Dans les faits, il est revenu 12 mois plus tard, les ânes étaient toujours là. C'est possible, d'accord? C'est-à-dire que c'est possible qu'ils vivaient de manière sauvage, c'est très possible, ça existe. Bon, ça c'est Rashi qui explique comme ça. Que Sfat explique de manière différente. Que Sfat explique que c'est pas ce qui s'est passé. Que Sfat il dit que ce qui s'est passé, c'est que Shmuel, le père de Shmuel, les a pris, il les a gardés pendant 12 mois, et au bout de 12 mois, il a compris que le propriétaire n'allait pas revenir.
Mais comment
il
savait qu'on les a trouvés, le père de Shmuel?
Il
savait que c'était
pas
de
plus
de
12 mois. Les
personnes...
Ah, il les a gardés, ça, pardon. Entre Rashi et Tosfot. Ou bien, Rashi explique que le père de Shmuel, il les a vus. Il les a vus, mais puis il s'est dit peut-être que ça appartient au propriétaire. 12 mois plus tard, il est revenu, il a trouvé toujours les mêmes ânes.
Ah,
il a compris. Ça, c'est Rashi qui explique comme ça.
Mais les solutions de Tosfot, c'est bizarre parce que on est dans le désert, alors on est en Irak, il y a des lions, par exemple.
Oui. Bon. Tu as dit qu'il y a des lions, bon, enfin. C'est Rashi, tu veux dire, qui est bizarre.
Parce oui, que, selon. Il y a des lions, il y a même des léopards, et on a vu qu'il y avait des loups.
Il y a des animaux qui vivent sauvagement dans le désert.
Oui, mais ils ont moins de chances de s'en sortir s'il y a des lions.
Bon, dans les faits, ils sont en sortie.
Alors, je trouve un objet qui n'est pas à moi, qui appartient à mon frère.
Ne change pas. Le père de Shmuel revient, c'est un cas qui s'est passé, tu comprends, c'est pas un cas qu'on te propose, c'est un cas qui s'est passé. C'est une histoire, on te raconte. Le père de Shmuel a retrouvé les ânes 12 mois plus tard, ils étaient toujours là. Parce que là, il a dit, c'est pas possible, le propriétaire les a abandonnés.
Mais normalement, s'il y a des lions, par exemple, tu les récupères au parfait, on les démange, de manière à ce que le propriétaire...
Non, c'est pas de mitzvah de faire ça, non.
Tu peux le rendre.
Non. Bon, on va dire, c'est un cas dans lequel il n'y a pas de lions. Pas partout, il n'y a pas des lions dans le désert. Hein. Je peux te trouver des lions dans le désert.
C'est des jungles.
Allez.
C'est des jungles dans le désert, déjà, peut-être.
Non. Et qu'est-ce qu'on dit? Ve'adrin ou les marayou, les bâtards tressaï achreshata, donc il les a rendus à son maître. D'accord. Il les a rendus à son maître au bout de...
12 mois.
Au bout de 12 mois plus tard. Alors que, est-ce qu'Alpi Alakha devait le faire?
Oui.
Non.
Alors, d'abord, comment il savait ça au premier 12 mois après? Il savait pas au premier mois.
Voilà, c'est ce que je t'ai dit. C'est que, il a vu les ânes. Alors, ensuite, il est venu 12 mois plus tard. Il a vu les mêmes ânes toujours là.
Oui.
Donc, il est arrivé à la conclusion. Il a dit que certainement, que c'est les mêmes ânes qui sont là. Et on voyait sur les ânes qu'ils étaient là depuis toujours. On verra après dans la Gemara amènera des cas, comme par exemple si je trouve un objet dans lequel il y a déjà de l'herbe qui a commencé à pousser dessus, vous savez, comme les objets qui sont délaissés longtemps, que je vois que ça fait des mois qu'il est là. Donc là c'est la même chose. Il est venu 12 mois plus tard et il voit que les ânes n'ont pas bougé, c'est pas qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils n'ont pas bougé. Donc il a fait le tour autour, il a vu il n'y a personne, d'accord. Donc il aurait pu, alachiquement parlant, est-ce qu'il peut les prendre? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans les villes avoisinantes, d'accord, dans les villes avoisinantes, donc c'était très dur pour lui. Et il est parti dire, est-ce que vous avez perdu des ânes, etc. Donnez-moi l'endroit où vous avez perdu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a retrouvé le propriétaire. Il est rendu au propriétaire 12 mois plus tard.
Il a fait plus que
Le deal.
Non. Plus que le deal.
Attendez, oui. Il s'en est servi de ces ânes. Et puis il s'est fait dédommager, il les a nourris pendant un an.
Oui.
Alors.
Mais un âne, ça vaut plus que le nourrir pendant un an.
Mais il y a une location gratuite.
Faire reçu de la race, c'est par exemple que tu pouvais garder l'objet, quand même le réclamer avec un Simon, tu le donnes.
Oui.
D'accord. Mais là, c'est pas ça. C'est que non seulement il a pris les objets, il a été les chercher les propriétaires pour le rendre.
Fachamatameda. Il a proclamé. Il a proclamé.
Ah, c'est comme ça que tu proclamais,
oui, bien sûr. Ah oui, il a proclamé. Il a envoyé des annonces dans les endroits avoisinants.
Si c'est un objet qui n'a pas beaucoup de valeur, t'as pas envie de proclamer, toi, le temps que tu fais.
Non, il a envoyé des annonces dans les endroits avoisinants, bien qu'il n'ait pas l'obligation. Et il y a eu un retour. Il a dit oui, je les ai perdus dans tel endroit, je l'ai. Voilà le siman. Dans un siman. Très fort. Pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour nous montrer que même s'il n'avait pas l'obligation de le faire, l'ifni mishurat hadin, quand on fait mieux que le din, il peut toujours les rendre.
Ça aurait changé quoi s'il avait trouvé les ânes?
Oui.
Et que le propriétaire avait déjà quelques jours qu'il les avait perdus.
Ça change pas, j'ai pas compris. C'est quoi? S'il avait trouvé.
Ça fait genre quelques jours que le propriétaire a perdu.
Tu peux pas les prendre.
Parce que c'est par rapport au Yehush.
Bah oui. Le propriétaire, peut-être qu'il les a laissés, il va revenir. Quelques jours, on laisse. Bon. Là, c'est 12 mois, on dit que le propriétaire, personne n'a 12 mois déjà. Bon. Il va y avoir des lions qui peuvent venir. Alors, Rava. Ava Shakil Veazil Batré de Rav Nachman. Encore une autre histoire. Vous allez regarder comment on analyse les histoires. On raconte, on nous dit que Rava, il marchait derrière Rav Nachman. C'est-à-dire que Rava était l'élève de Rav Nachman. Où il marchait? Veshuka de Gildae, dans un marché de Gildae, de Tanner. Vamrele, il y en a qui disent, Veshuka de Rabanan, que c'était dans un marché de Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas un marché que les vendeurs, c'est Talmidei Chachamim.
Bonjovitch.
D'accord? C'est un marché dans lequel, la majorité des passants sont des clients.
Pas des vendeurs.
Sont des clients qui sont Talmidei Chachamim.
Un quartier de Froum des
étudiants. Voilà. Quartier de Froum, par exemple, c'est 27 ou voilà. Okay, bon. Alors. À Marley, Rava, il a posé la question à Rav Nachman, donc même style de question. Matakan Arnak, si quelqu'un trouve ici Arnak, un porte-monnaie, Maou, quel est le dit? Si quelqu'un trouve ici un porte-monnaie, Maou, quel est le dit? Alors, Marley lui a répondu, Arelouchelo. Rav Nachman, son maître, lui a répondu, il a dit, Arelouchelo, il peut les prendre. Pourquoi il peut les prendre? Comme on a expliqué avant avec Shmuel, parce qu'on considère que comme c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, tu peux les prendre. Ah. La nouveauté qu'on a ici, c'est quoi? C'est que... Un quartier feuge.
Grave feuge, exactement.
Là, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas avant. Bah, Israël, Benatan Bassiman, écoutez bien, suis. Si un juif est venu, et il a donné un siman, il a dit, oui, c'était mon porte-monnaie, je l'ai perdu, il était comme ça. À Marley, il lui a répondu, Rava, Rav Nachman, à Relouchelo, c'est toujours à lui, il peut toujours le garder.
Bravo.
Alors...
Mais il y a des téfilines avec!
Il a répondu, il a dit, mais va à l'eau, maître Vetsover! Mais il dit, mais le propriétaire est là en train de crier, il dit, mais c'est le mien, j'ai un siman! Et il a des simanimes énormes!
Il a une facture!
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à répondre à ça?
Attends, mais
c'est pas les simanimes, avant, on avait dit que, pourquoi il le rendait... D'accord. Mais là, il a répondu, il a l'alakha. Là, il a répondu l'alakha, mais pas les simanimes, Mishurat Hadin. Là, l'alakha qu'on a dit avant, c'était les simanimes, Mishurat Hadin, mieux que le dit. Là, c'est l'alakha normal, standard. Il lui a dit, l'alakha standard, c'est quoi? C'est que, Are Louchelo, d'accord? C'est à lui. Alors il y a l'élève qui est Rava, hein, qui va devenir un grand par la suite, il dit, mais va à l'eau, Omet Vetsover. C'est une phrase après qui est devenue très célèbre dans la Gemara, Omet Vetsover. C'est-à-dire, mais il est là en train de crier. Il crie, il dit, mais c'est à moi. Et il a des simanimes. Et tu lui dis, non monsieur, c'est à moi. Ça y est, je l'ai trouvé. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il répond? Regardez bien la réponse. Dina te ketsover albeto shenafal. C'est comme quelqu'un qui crie sur sa maison qui est tombée. Valtuinato, chez Dava Abaya, mais sur son bateau qui s'est noyé. Que tu peux crier, cours toujours, tu m'intéresses. C'est ça ce que ça veut dire. Tu peux crier autant que tu veux. Tu l'as perdu. Ça veut dire que...
Non, là, c'est très très dur. Là.
Ah oui, c'est très dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère comme ça.
J'ai trouvé ta bagnole demain matin.
Non. Ça veut dire qu'on considère qu'un objet trouvé sur la place du marché, statistiquement, il a été abandonné par son propriétaire. Et même si le propriétaire vient après et te dit « Je ne l'ai pas abandonné, c'est le mien », on considère que statistiquement, l'objet a été abandonné. Donc puisqu'il a été abandonné, et que moi je l'ai trouvé au moment où il a été abandonné, il m'appartient.
Ça veut dire que l'ancien propriétaire, pour lui, c'est une surprise de le trouver.
Exactement. Donc lui, en vérité, ce qu'il veut l'ancien propriétaire, c'est qu'il veut faire une reprise. Et ça, ça
marche. Attends.
Mais, il y aura un cas qu'on verra par la suite. Si, d'accord, le propriétaire initial amène des preuves qu'il n'a jamais abandonné.
Bah oui.
Là, dans ce cas-là, c'est différent.
Il a peut-être même fait une pub.
Peut-être.
Dans toute la ville. Perdu, machin. Appelez-moi.
Là, dans ce cas-là, effectivement, comme on verra dans la suite, effectivement, dans ce cas-là, s'il amène des preuves, dans ce cas-là, il faut rendre l'objet. Mais, par défaut, s'il n'a pas de preuves, Même s'il dit, mais moi intérieurement, je voulais retrouver. Vous savez, hein, toujours, c'est normal.
Avec le cœur.
Moi intérieurement, je comptais le retrouver.
C'est sentimental.
D'accord. Je comptais. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que statistiquement, on considère qu'un objet perdu sur la place du marché, on considère que cet objet-là,
bah, alors ça, ça balaye les autres trucs.
Pourquoi je n'ai pas la même réponse que Rabbi Yehuda alors?
Que quoi? Non. Rabbi Yehuda, il a répondu, la lacha l'ifni mishurat hadin.
Mieux que les autres.
Parce que ça, c'était, ça certainement, c'est sûr, ça passait encore avant. D'accord, donc ça s'est passé encore avant. Et lui, Rav Nachman n'a pas répondu la halakha, il finit mes choix. Il a répondu la halakha.
Ça s'est passé avant, ça.
Oui. Il a répondu la halakha. Sache que c'est quoi la halakha.
Mais Rava, il ne connaît pas la réponse de...
Si. Ah non, Rava, il ne connaissait pas la réponse.
Non, mais de cela.
Rav Nachman, tu veux dire. Rav Nachman connaît la réponse.
Oui.
D'accord.
Non, oui. Ah, oui.
Alors Rava ne connaît pas la réponse. Rava, c'est un élève, il est en train d'apprendre.
Ah,
nous, élève. Aujourd'hui, on connaît Rava. Ouais. Mais là, Rava est en train d'apprendre. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, Nate Ketoveach Albeto Shinafa Vasfinato Shitava Bayam. Ça veut dire que, halakhiquement parlant, tu le prends, il est à toi. Même si le propriétaire, il vient par derrière. Même si le propriétaire, il vient par derrière, il te dit, mais c'est à moi, j'ai un siman. On te dit qu'on considère, comme si que, tu es en train de crier sur ta maison qui est tombée, et tu peux prendre l'objet. Très fort. D'accord? Ça veut dire que, a priori, si, ensuite ce qu'on dit ici, il faudrait comprendre que la halakha est comme, Rabbi Shimon ben Elazar. Ça, en vérité, c'est là maintenant qu'on comprend que le concept de Rabbi Shimon ben Elazar est révolutionnaire. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que quand on trouve un objet dans un endroit, même avec un siman, dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on considère qu'il a fait Yehush.
Même avec Yehush,
c'est révolutionnaire.
Mais des juifs pratiquants.
C'est révolutionnaire.
Pourquoi
Yehush,
c'est quoi? Il part au-dessus.
Bien sûr.
Il peut le faire.
Il peut le faire et il doit le faire.
Ouais, parce que c'est un homme
important et tout. Rav Nachman a répondu seulement la halakha.
D'accord.
Très bien. Encore une histoire. Là, vous voyez comment ce qu'on appelle dans la Gemara Maaserav, ça veut dire avec les histoires, on apprend énormément de choses. Aou Dayo, il y avait une fois une histoire avec un Dayo. Dayo, c'est un oiseau, un grand oiseau, comment ils appellent ça, un vautour. Des Shakil Bistra des Shuka. Il y avait une fois une histoire avec un vautour, c'est vrai que le vautour il aime la viande.
Oui.
Hein, je sais pas si vous avez vu des spectacles de vautours.
Oui.
D'accord. Et comment on fait le spectacle? Avec la viande, c'est avec ça qu'on les attire. C'est avec ça qu'on les attire, on les fait aller d'un endroit à l'autre, on fait des spectacles avec
les
vautours.
D'accord? Pas les vautours.
Alors, Aou Dayo. Il y avait une fois une histoire avec un vautour. Des Shakil Bisra, vous voulez dire que le vautour risque de manger les hommes?
Non. Ah. Le vautour, c'est un charognard, alors que c'est un prédateur, là.
Ah.
Et le faucon.
Non, le vautour, il aime la viande.
Oui.
Donc, Aou Dayo. Il y avait une fois une histoire avec un vautour. Des Shakil Bisra Beshuka. Écoutez bien les détails de l'histoire. Qui a pris de la viande de Shuka dans le marché. On a beaucoup d'histoires aujourd'hui. Donc il a pris de la viande dans le marché. C'est-à-dire il y avait un vautour. Imaginez-vous une ville dans laquelle il y a des vautours. D'accord?
Non, parce que ça se balade. Hein,
oui,
c'est voleur,
il fallait pas oublier qu'on était à Babylonie. Il y avait des vautours. Bon. Et donc il y a un vautour qui vient. Il passe à la place du marché.
Et il vise un gros bout de viande.
Un marché, il vise un gros bout de viande. Il prend le bout de viande.
Béchadier,
Béchadietta, des Bébarmarion. Et il a jeté entre les palmiers. Chez Barmerion. Barmerion, il y avait quelqu'un qui s'appelait Barmerion, il avait un grand cours avec une palmeraie, avec des palmiers, donc bien entendu, et ce vautour-là jette son morceau de viande là-bas. C'est un fait, ça s'est passé comme ça.
Le bout de viande est tombé.
Et alors, pourquoi il n'est pas reparti chercher le vautour? Parce que le vautour a peur de descendre dans les
palmiers. Oui, parce que c'est une palmeraie. Finalement, il l'a fait tomber.
Il l'a fait tomber, voilà. Ouais. Il a fait tomber, il ne descend pas, ça pique, ça fait mal, très bien. Alors, maintenant Barmerion y passe. Et il voit un gros, big morceau de viande. D'accord.
C'est même pas si c'est cachère, hein.
Alors, Véchalier, ils ont appris ça à l'école. Mais Tsanetan et Barmerion, il a jeté, donc, dans la palmeraie de Barmerion.
C'est différent, c'est pas un lieu public, là.
Ah, bien. C'est pas un lieu public, mais...
Mais ça tombe d'un lieu public.
Mais ça vient d'un lieu public.
Le ciel.
Alors, Atal Akame Dabaye, lui, il a vu le vautour déposer. On verra après, est-ce qu'il a vu aussi le vautour le prendre. Ah, t'as avec Amédé Abaye, et il est venu devant Abaye, et Barmerion est venu chabailler pour demander, dit, qu'est-ce que je fais avec cette viande? Si je donne à mon chien, qu'est-ce que je fais avec? Amar, le Abaye, il lui a dit, Zil shkol le nafshar. Il lui a dit, tu peux prendre la viande pour toi. Prends la viande pour toi, c'est-à-dire, a priori, la
même je peux la manger.
La manger. Alors, on va analyser l'histoire tout de suite. V.A. Rouva d'Israël, Ninou. Cet endroit ici, qu'on dit ici, c'est un endroit dans lequel, on parle d'un marché dans lequel un marché juif, parce que sinon on n'achète pas la viande chez les goyim, nous. Très bien. Donc c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs.
Nous on sait que c'est un endroit où il y a une majorité.
Parce que dans l'histoire, on sait, c'est des histoires qui sont passées, tu comprends?
D'accord.
C'est pas des histoires. La majorité des passants de ce marché sont des juifs. Et pourtant, Abaye a permis de prendre la viande. Shamat Mina, j'apprends d'ici. Que Alakha qui Rabbi Shimon ben Elazar a fait le Rav Israël. De là, j'apprends que l'Alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même s'il y a une majorité de juifs. Très fort ce cas ici. C'est quoi la nouveauté qu'on a ici? C'est quoi la nouveauté qu'il y a ici? C'est qu'il y a un sima dans un morceau de viande. On avait expliqué qu'il y a une coupe. Vous vous rappelez ou pas? Il y a une coupe. Il y a un sima dans un morceau de viande. Donc le propriétaire a pu le récupérer. Qu'est-ce qu'on considère? On considère que qu'une fois que l'oiseau a pris l'objet,
pour... il s'est dit c'est perdu.
C'est fini, c'est perdu.
Il s'est paré avec.
C'est fini, c'est perdu.
Il va donner à manger à
donc de là j'apprends que la même chose, comme Rabbi Shimon ben Elazar, quand je perds un objet dans la place du marché, même s'il y a un siman, puisque statistiquement parlant c'est perdu, c'est possible que l'oiseau aussi il aurait pu rejeter l'objet, c'est possible. Mais statistiquement parlant, une fois que le retour a pris l'objet, c'est fini, tu peux l'oublier, tu peux faire yaouch, c'est fini.
À moins que t'aies un hélicoptère.
Bon, donc a priori, ça confirme ce que Rabbi Shimon ben Elazar a dit, que même si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de Yehoudis, il y a une majorité de Israël, et pourtant qu'est-ce qu'on nous dit? Puisque statistiquement parlant, dans un cas comme ça, l'objet est perdu, et tu peux oublier de le retrouver, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que l'objet tu peux le prendre, donc même s'il y a un siman.
Le siman ça sert à rien alors?
Oui, c'est-à-dire que le siman ça sert à rien dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence. Donc vous avez bien dit, ça remet en cause ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, le siman est remis en cause. Et d'ailleurs, en passant, la halakha sera comme ça.
Sauf si tu veux faire au-dessus de...
En passant, sachez que la halakha sera comme
faire
ça.
Plus que la halakha.
Un endroit dans lequel il y a une forte affluence, le siman ne vaut rien. Ça veut dire un portefeuille, je trouve, sur la place du marché, je le prends.
Ah, bon, avec une telle garde d'identité que ça
sert. Non, je peux faire... Attention. Je peux faire les films, mais je suis ratatine.
Attends, mais concrètement...
Mais quelle différence?
Si il y a des mâles que... Ici, on est en France. Normalement, quand on ramasse un objet, on le
remet,
on perdu.
Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation.
Dis non.
C'est pas une obligation.
Attends, quand il y a un siman qui est fort,
oui.
En quoi l'influence joue quelque chose?
Parce que ça dépend. Quand c'est un cas standard, comme un porte-monnaie, on considère que le propriétaire initial l'a abandonné, même s'il y a un siman.
Si c'est ta carte d'identité, que tu sois à forte influence.
Très bien.
Enfin, c'est pareil.
Alors moi, tu as posé une bonne question. On va analyser le cas. Dans un cas dans lequel il y a une forte influence, est-ce que d'après toi le propriétaire a abandonné l'objet?
Franchement non.
Non, s'il y a...
Donc dans ce cas-là, il n'y a pas Yehouch.
Donc tu dois le rendre.
Il n'y a pas de carte d'identité. L'autre, il a un siman. Le siman qu'il avait, par exemple, c'est qu'il avait ses initiales.
Imagine-toi que c'est le seul boucher du marché.
Non, attends, deux secondes. On analyse le concept de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que si on a trouvé un objet, même s'il y a un siman, on considère que l'objet, que le propriétaire l'a abandonné. Sauf s'il y a une raison de penser qu'il n'a pas abandonné, comme le cas de la carte d'identité. Là, il y a une raison de penser qu'il n'a pas abandonné. Un cas standard, on considère qu'il a abandonné. Par exemple, je trouve un portefeuille avec des initiales. Qu'est-ce que je fais avec les initiales? Je peux rien faire avec. D'accord.
Alors que si c'est un objet...
Qu'est-ce qu'on a vu dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Abaye. On a parlé de tout le monde aussi. Abaye, Rava, on a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Abaye, tu peux prendre le morceau de viande.
Ça, tu parlais d'Abaye tout à l'heure.
Hein? Il connaît, il a pris déjà avec moi.
Donc là, c'est contre Rabbi Shimon.
Donc, on a vu ici que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même que dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs. Parce que c'était le cas ici.
Ouais.
Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, mais je comprends pas. Comment Abaye, il a pu dire que la viande, on peut la manger? Vea, Mara, voilà, Ravadi, Basar, Shenit, Alamina, Aïn. S'il y a de la viande qui a quitté notre regard, Assour, on n'a pas le droit de la manger. C'est-à-dire de la viande qui a quitté notre regard sans qu'elle soit enfermée. Car c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il doit être enfermé avec deux simanes. S'il y a de la viande qui a quitté le regard, qui a quitté les yeux, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette viande-là, on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi on n'a pas le droit de la manger? Parce que peut-être qu'elle a été échangée avec une autre viande qui n'est pas cachère. C'est une xéra qu'on a fait à l'époque de la Gemara. Donc, d'après ça, on pose la question, le vautour, d'où tu sais, la viande, comment Abaye, il sait que la viande qui atterrit dans le place de marché, c'est la, non, mais comment il sait que c'est la même viande qui vient de chez le boucher? C'est une autre viande. Ça veut dire comme ça, on sait qu'il y a une viande qui a été prise sur la place du marché, peut-être, certes, on le sait. Mais qui te dit que c'est la même viande? C'est une autre viande.
C'est quand même bien suivi du regard.
Si on voit que sur la viande, on est tellement strict sur la viande que même si tu l'as quitté du regard, tu peux plus la manger. C'est pour ça qu'il faut attention à ça. D'ailleurs, vous vous rappelez, on avait expliqué comment il a envoyé, il y a trois semaines, on avait expliqué que comment Abaye il a envoyé à sa femme de la viande. Vous vous rappelez comment il faisait? C'est un siman sur la viande, c'est un signe particulier. C'est la viande en forme de triangle. Bon. Donc, la Gemara pose des questions aussi. Comment? Toutes ces questions, c'est une parenthèse, et je finis avec ça. Mais, ah, Mara, voilà, Ravadi, passe, Hachinit, Alamina, Aïn, Assour. La viande qui a quitté le regard, c'est assourd, on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? De peur qu'on l'a changée avec une névéla, avec une viande qui n'est pas cachère. Répond la Gemara, Ici, on parle d'un cas comme tu as répondu à Yaakov, Béomètre 0 et 1.
D'accord, c'est comme Yaakov.
On parle d'un cas que Omet Vereu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ça veut dire que on a j'ai suivi le, c'est très fort comme cas. Imaginez, on va se mettre à la place de Barbarion. Barbarion a vu de ses yeux, de son jardin, il a vu comment le vautour a pris la viande, il a suivi du regard,
ah,
il a vu comment le vautour a fait tomber la viande dans sa palmeraie. C'est-à-dire que c'est sûr,
il a vu du but à la
c'est sûr, ça vient du boucher. Donc c'est pour ça qu'il aura de la manger. Et pourtant, quelle est la halakha? Il peut la manger.
Mais le vautour lui-même, le...
Ouais, et pourquoi il la rend pas au boucher? Ouais, je vous dis que pourquoi il la rend pas au boucher? Si il sait que c'est venu du boucher,
il a fait la halakha.
Pourquoi?
Parce qu'il a fait yéouch.
Parce que le boucher a fait yéouch.
Il est fait yéouch parce qu'un vautour, il peut pas savoir qu'il attend maintenant à la
palmeraie. Il est vraiment
donc, c'est très fort. Vous avez compris le concept. Le concept très fort comme concept. Le concept, quand on dit ici, c'est que on considère que le propriétaire, une fois que le propriétaire a fait yéouch, même si le propriétaire le retrouve après, on dit c'est trop tard.
Ouais, mais quand même, ça.
Et en passant, sachez qu'il y a même une question qui est posée. Enfin, il y a même une question qui est posée. Bonjour. Ah, c'est au fond.
Ouais.
Oui, juste au fond là. Et en passant, là, il y a une question qui se pose dans les décisionnaires. Les décisionnaires posent la question. Ils disent qu'est-ce qui se passe si la personne a perdu l'objet, il a fait yéouch. D'accord? Donc il abandonne l'objet. Et après lui-même il retrouve l'objet.
Il refait Kinyan.
Bah, ça lui le prend.
Est-ce qu'on considère que la personne doit refaire Kinyan, doit refaire l'acquisition pour prendre l'objet?
Bah oui, ouais.
Ou bien il n'a pas besoin, on considère qu'il a jamais perdu.
Il a besoin parce que...
Ouais, il a pas.
Et il y a des avis qui pensent qu'il faut refaire une acquisition.
Ouais,
pourquoi? Parce qu'on considère qu'une fois que la personne a fait yéouch, c'est plus de sien. Très fort en concept.
Ouais, mais... La même manière que celui qui trouve, il les a lus, la même manière lui qui les trouve.
Oui,
il a lu.
Mais il faut qu'il fasse une acquisition.
Il faut qu'il l'obtienne.
Ah, là,
faut qu'il
acquiert. Je crois que je le place à M. Biscuit. Bon.
Le drogué.
Ah,
c'est bien.
Très bien. Ah, c'est très fort comme concept. Vous avez entendu, monsieur, c'est ce qu'on a dit.
Non.
On a dit que le concept du yéouch est tellement fort. Que le concept du yéouch dit qu'une fois que j'ai perdu un objet, d'accord, que j'ai fait yéouch, même si après, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, même si on retrouve l'objet, si statistiquement on sait que j'ai fait yéouch, je ne peux pas reprendre l'objet. On a dit que les décisionnaires vont plus loin que ça.
Attends. Si moi j'ai perdu un objet, Et si je le retrouve, je ne dois pas le prendre.
Attends,
non.
Si Monsieur Bissou, vous perdez un objet,
ouais,
et que statistiquement, ce type d'objet, on sait qu'une fois qu'il est perdu, statistiquement, on sait que ce type d'objet, une fois qu'il est perdu, le propriétaire fait yéouch.
Ouais.
Très bien. Moi, je trouve cet objet. Maintenant, il se trouve que j'ai trouvé le sidour, par exemple. J'ai trouvé la sidour. Il se trouve que le dé, on se retrouve à la synagogue, et Monsieur Bissou, vous reconnaissez votre sidour avec les initiales. C'est mon sidour. Je garde le sidour. Pourquoi? Parce que c'est un cas que statistiquement parlant, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez fait yéouch, donc puisque vous avez fait yéouch, il ne vous appartient plus. Maintenant, j'ai dit que les décisionnaires, ils vont plus loin que ça encore. Imaginez-vous que M. Bissoud, vous perdez votre sidour. Donc dans votre tête, il est perdu. Perdu, je fais yéouch.
Oui,
et qu'après,
j'ai fait yéouch.
Attendez,
oui,
statistiquement, on fait yéouch. D'accord? Et que vous retrouvez l'objet. Vous-même, vous retrouvez l'objet. Il y a des décisionnaires qui pensent, d'accord?
Je suis comme un tiers.
Il y a des décisionnaires qui pensent qu'il faut refaire l'acquisition de l'objet. Vous devez refaire l'acquisition de l'objet.
Il a eu ça, celui-là.
Oui, il a fait yéouch.
D'accord.
De la même façon que si je n'étais pas le perdeur.
De la même manière, tu vois.
De la même manière.
Oui,
si j'étais,
exactement.
Si j'étais quelqu'un qui n'était pas moi au départ.
Ouais. Très fort. D'accord. Bon. Donc on continue. Gemara continue, elle dit, Rabbi Hanina, Matzak Dishachut Ben Zaria Le Tibori. Rabbi Hanina a trouvé, une fois, un gdi shachut, ça veut dire donc un chevreau qui, dans lequel la shrita est déjà faite. Ben Zaria Le Tibori, entre Pessah Kasher et Sameach. Entre Tibériade et Tsipori. Donc, on est en Israël ou en Babylonie?
On est à cheval, là.
Israël.
Les deux sont en Israël, Tsipori et Tibériade.
Ah, Tsipori, je ne savais pas, Tibériade.
Très bien. Alors, Veitiru Lo, les Chachamim lui ont permis. Rabbi Hanina a trouvé, donc il a raconté une histoire, il a trouvé un chevreau avec la Shrita. Maintenant, le problème qu'on a avec la Shrita, c'est que... Donc, il y a la Shrita, c'est clair que ça a été fait par un juif. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si la shrita a été bien faite ou pas.
Oui.
Parce qu'une fois que la shrita est faite, on n'a aucune manière de savoir est-ce qu'elle était bien faite ou pas. Parce que tout se passe au moment où on fait la shrita. On ne peut pas récupérer le tir. Vous comprenez le problème?
Oui.
Donc lui, il a trouvé un chevreau que la shrita était déjà faite.
Ça peut être un, Bon, au jour d'aujourd'hui, ça peut être un arabe.
Ça peut être un arabe, très bien. Ouais. Alors, Amarab, et les chachamim lui ont permis, ils ont dit, tu peux le prendre, tu peux le manger. Amarabiam, Irabiam, il a dit, Itirou, lo, Mishum, Metsia. Pourquoi ils lui ont permis? Ils lui ont permis, Mishum, Metsia, parce que c'est une trouvaille. C'est-à-dire, ils ont considéré que certainement le propriétaire a abandonné son objet.
Je suis...
Très bien.
Je m'inscris en fait.
Attendez. Donc ça, c'est Kerabi Shimon ben Elazar. Ça, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que comme c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence entre Tibériade et Tibori, et qu'il y a beaucoup de monde qui passe, donc certainement on considère que le propriétaire initial l'a déjà abandonné. C'est comme j'aurais dit aujourd'hui, une aire d'autoroute.
D'accord.
Vous perdez un objet dans une aire d'autoroute.
Ouais, c'est pour venir en arrière.
Vous ne comptez pas trop le retrouver.
Sens,
d'accord. Les chances de le retrouver sont très minimes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont permis de le prendre. Mais il y a un deuxième problème. Qui te dit que la shrita a bien été faite? Écoutez bien. Le Mishum Shrita, pourquoi ils l'ont permis par rapport à la shrita? Kerabi Hanania beno shel Rabbi Yosef Aglili. Comme la vie de Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Aglili, des Tanaïm s'enseignaient. Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Aglili, il dit comme ça. Si une personne, dans une braïta, il dit, si une personne a perdu ses chevreaux, ou ses coqs, ses poulets, Ve'alach, il est parti. Umtsa'an shrutim. Donc il est parti les chercher. Il les retrouve, mais il les retrouve déjà fait la shrita. Il retrouve ses poulets, il a un siman, il reconnaît ses poulets. Mais il les retrouve avec la shrita.
Ah bah c'est pas lui.
Il y a un problème là. Non, c'est les siens. C'est sûr, il a un siman.
Il a un siman, bagué,
numéroté.
C'est sur un lieu où il y a beaucoup d'affluence.
Attends, seconde. Il retrouve ses poulets, lui-même les retrouve, pas quelqu'un d'autre. Il perd ses poulets, il les cherche, il les retrouve quelques heures plus tard, shrita déjà faite.
Par le propriétaire.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yuda? Alors on a une machloket entre Rabbi Yuda et Rabbi Hanania. Rabbi Yuda oser. Rabbi Yuda il interdit parce qu'il dit peut-être que la shrita a mal été faite. Et comme je vous ai expliqué, une fois que la shrita est déjà faite, d'accord, on n'a aucune manière de savoir si la shrita était bien faite ou pas. Impossible de savoir. D'accord, parce que si la shrita a été mal faite, par exemple avec un couteau qui avait des fentes, etc., une fois que la shrita est déjà faite, il n'y a aucune manière de savoir en regardant l'animal, de savoir est-ce que la shrita est bien faite ou pas. Nous on voit un animal, la shrita, c'est tout. Mais le couteau, par exemple, le couteau n'a pas avoir de fente, etc.
C'est cachère. Oui.
Très bien. Donc, Rabbi Yuda interdit. Il dit peut-être que la shrita n'était pas bonne. Qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est Rabbi Yuda. Mais Rabbi Hanania ben Noach Rabbi Yosef Aglili m'attire. Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Aglili, il permet. Pourquoi? Alors, Amar Rabbi Yuda Nassi, il a analysé la marloquette qui est entre Rabbi Hanania et Rabbi Yuda. Quand il dit, Nir im divre Rabbi Yuda. Alors c'est Rabbi Yehuda Anassi qui analyse la marque entre Rabbi Yehuda, pas Anassi, et Rabbi Hanania. Il dit Nir indivre Rabbi Yehuda kshemetzan behashpa. Il dit si les coqs il les a retrouvés dans une poubelle. Donc là dans ce cas-là effectivement ce que Rabbi Yehuda a dit c'est logique que certainement s'il les a trouvés dans une poubelle certainement la shrita a été mal faite. Mais divre Rabbi Hanania benosh Rabbi Yosef li kshemetzan debayit. S'il les a trouvés dans un endroit, dans une maison, quand je dis dans une maison, ça veut dire, c'est peut-être qu'ils les ont trouvés chez lui à la maison. Ou qu'il les a perdus à la synagogue, il les retrouve à la synagogue. C'est-à-dire dans un endroit dans lequel c'est pas dans une poubelle. Dans ce cas-là, on considère que certainement la shrita était bien faite. Donc, mi deiturulo, on finit avec ça, mishum isur shrita, puisqu'on lui a permis, mishum shrita, puisqu'on lui a permis de manger cet animal, c'est de là que j'apprends que la majorité des passants sont des juifs, parce que sinon on lui aurait pas permis. D'accord? Donc de là j'apprends que Rouba Israelilou. Donc de là on apprend, c'est intéressant, les commentaires expliquent que de là on apprend que déjà à l'époque, il y avait d'autres civilisations qui faisaient la shérita, à part les juifs. Intéressant.
Ouais.
Ah oui, parce que sinon. C'est pour ça que la Gemara dit, de là on apprend que la majorité.
Il y avait des Caraïbes.
Oui.
Regarde, dans le cas du vautour.
Oui.
C'est ce que j'allais dire.
Dans le cas du vautour.
Oui, bien.
C'était permis parce que tu considérais que le...
Tu l'as suivi du regard.
Il a suivi du regard.
Très bien.
Mais là, il n'a pas suivi du regard. Et quand il considère que c'est une majorité de juifs, mais peut-être que c'est pas un juif.
Il y a de 50 km,
mais c'est pas un juif qui a fait la shrita.
La différence est très simple, encore. La différence est très simple. C'est que l'interdiction que les Chachamim ont fait, ils ont fait que sur de la viande. Parce que quand tu vois de la viande, sur le morceau de viande, tu peux pas voir s'il vient d'une viande d'un animal qui est cachère ou d'un animal pas cachère. Impossible de voir. Je peux pas voir. Mais là, l'animal est encore entier. Donc je vois que l'animal est caché.
Oui, mais tu sais pas si ça a été fait par un juif.
Ah.
Oui, parce que c'est un vautour qui l'a fait
peut-être.
Tomber.
Okay. Non, attention, ouais. On va plus d'un morceau de viande là.
Oui, mais il peut avoir attrapé un animal entier, le vautour.
Mais le vautour a pas fait la shrita.
Mais il a imagine le vautour, il vole. Il passe chez les Caraïbes, qui tue avec un couteau, hein. Il pique son machin et il le fait tomber ailleurs. Alors
ça c'est, comme vous dites, c'est Rabbi Yehuda, qui dit. Rabbi Yehuda dit peut-être que la chose n'était pas bonne. Rabbi, ça veut dire on se base pas sur les statistiques.
Même si c'est pas dans la poubelle.
Oui. Rabbi Hanania n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Hanania, il dit, quand tu l'as retrouvé dans un endroit standard, dans un endroit à forte affluence juive, par exemple, dans une synagogue, on considère que la chose était bonne.
Mais il y a un doute.
Non. C'est ça la question, c'est ça la marloquette. Lui, Rabbi Hanania, il te dit on se base sur les
alors moi je mange de ce poulet.
Que la shrita est bonne.
Qu'est-ce qui m'arrive si quelque
donc vous avez compris qu'on n'a plus le problème de Bassar Shemit à la Minahaïn.
Oui.
On n'a plus le problème de la viande qu'on a quitté du regard, puisque c'est pas de la viande.
C'est la bête.
C'est la bête. Oui. Donc on voit que la bête est cachère.
Oui.
Le seul problème qu'on a, c'est à savoir est-ce que la shrita était bonne ou pas.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on te répond sur ça? Rabbi Hanania se base sur les statistiques. Oui. C'est-à-dire, a priori, on se base sur les statistiques que la shrita était bonne. Et c'est pour ça que Rabbi Hanina, quand il avait trouvé un guédi, il avait trouvé un chevreau avec la shrita entre Tiperet et Tipori. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils l'ont dit,
mange.
Tu peux le prendre. Mange. Fais les grillades. D'accord?
Juste pour faire ça, bon. C'est impeccable.
Donc, dans les mots de la Gemara, Shemat Mina, Shalacha, Rabbi Shimon ben Elazar, Afilou, Berov Israël. De là, j'apprends que la halacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans l'endroit dans lequel il y a une majorité des juifs. C'est très fort ce qu'on dit. Ça veut dire que la halacha est comme ça. La halacha est comme
c'est
ça.
C'est quand même bizarre. Hein.
La halacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que quand on se trouve dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, même si c'est un objet dans lequel il y a un siman, on considère que l'objet, tu peux le prendre. Donc c'est très fort. C'est
écoute, fait. Des types qui sont capables de faire des sauts de lettres et des machins dans la Torah, tu ne fais pas que c'est des calés dans les statistiques. S'ils te disent ça, c'est que tu peux y aller.
Tu peux le prendre.
C'est-à-dire qu'il y a
mais,
vraiment,
attention, comme ce que j'ai dit, attention, si c'est un cas dans lequel vous trouvez par exemple un portefeuille avec une carte d'identité, là on considère que le propriétaire initial l'a pas abandonné. S'il compte le retrouver.
Par rapport au
tout est par rapport, tout se joue par rapport au Yehouch. Par rapport au Yehouch du propriétaire.
Ouais.
Très bien.
Moi je suis pas convaincu par du tout par ton cas là.
Quel cas?
Le cas de la bête égorgée là.
T'es pas convaincu de quoi?
Que, bon, tu me dis c'est comme ça, tu peux la prendre, mais moi je la prends
pas. Bon, toi tu penses qu'on aura Yehuda apparemment. Ah
ouais. Tu veux que à chaque fois je m'en sorte au moment où tu vas manger cet agneau, qui vienne de chez un juif ici.
Bah, quand tu vas au boucher, il y a les morceaux de viande qui sont cachés, lui je vous donne des morceaux de viande, et il te dit,
quoi,
bah, peut-être c'est cachère, mais je pense que c'est cachère, le boucher
non.
Te dit.
Là il te dit, c'est ça la force. La force on te dit ici, c'est que si tu l'as trouvé dans un endroit juif, on considère que la chrita était bien faite. S'il est pas dans la poubelle, tu te trouves dans un endroit, je le retrouve, j'ai laissé mes poules dans la cour de la synagogue, je le retrouve dans la cour de la synagogue, mais avec la chrita.
Moi je pense aussi que trouver un chevreau comme ça qui est posé par terre, peut-être que celui qui a fait la chrita, il a raté. Il n'y a pas de poubelle sur place, il l'a laissé.
Alors ça, c'est ce qu'on considère.
Il y a ça, premièrement, premier dos.
Non, ça c'est expliqué Rabbi. Il a répondu à ta question Rabbi Yonassi.
Oui.
Rabbi Yonassi, il a dit que si c'est qu'une personne qui fait la shrita qui la rate, il la met à la poubelle, il la laisse pas comme
il n'y a pas de poubelle là, dans ce lieu-là.
On laisse pas, tu faisais tu crois qu'on laisse l'animal par terre comme ça, le cavote. Il y a un cavote pour les animaux. Tu crois que si on fait shrita, on le laisse comme ça.
Alors qu'est-ce qu'il fait l'animal par terre, tu peux me dire?
Mais voilà. Ça veut dire qu'il y a la personne, il y a une personne qui l'a laissé, qui l'a oublié, qui a fait yéhouch.
Elle a oublié l'animal.
Oui. Dans un endroit à forte affluence.
D'accord.
Dans un endroit, bien sûr, c'est possible.
Maintenant, il sera caché.
Ah, je veux dire, il faut une preuve à 100%.
Il sera caché.
Non,
t'as pas de preuve à
100%. Il n'y a pas besoin de preuve à 100% pour la shrita. Ça, c'est ça le chidouche de Rabbi Hanania. On se base sur les statistiques. Et d'ailleurs, en passant, je vais te dire, le poulet que tu manges, t'as pas de preuve à 100% qu'il est caché. Parce que statistiquement, d'accord, ils te font 800, un shorat, il fait 800 poulets à l'heure. Je peux te dire qu'il y en a au moins un par jour qui est pas caché dans ce qu'il fait. C'est impossible. Statistiquement, c'est pas possible.
S'il n'était pas caché,
oui.
Si le chevreau n'avait pas, est-ce qu'il est caché?
Oui, on considère, si la Torah me dit qu'il est cachère, donc pour moi je le prends, ça veut dire que...
La shrita n'avait pas été bonne.
Tant pis.
Il est cachère.
La Torah me dit qu'il est cachère, donc je le prends. C'est comme le poulet que je prends.
Donc il y a des critères objectifs, comme par exemple l'animal peut être cachère ou n'est pas cachère.
Oui.
Objectif. J'ai pas d'avis à donner dessus. Il y a des critères subjectifs.
Non, c'est plus simple que ça, c'est que la cacheroute était fixée par le Chachamim. Mais c'est même Chachamim qui ont fixé la cacheroute, ont fixé des exceptions.
Donc, par contre, pas les animaux. Ça a été fait par...
Oui, ça, voilà, les mêmes Chachamim qui ont fixé les règles de la shrita, ils ont fixé qu'on peut se baser sur les statistiques. Et donc, mais tu penses, même si...
Pas les animaux.
Même
pas
si statistiquement, c'est possible que le poulet que je veux manger à la maison, il n'est pas caché, c'est possible.
Mais pas le choix de l'animal.
Pas le...
Le choix de l'animal. Choix de l'animal,
non. Ah non.
C'est pour ça que le vautour, ça ne marche pas.
Oui.
Parce que ça peut être...
Le vautour, c'est une viande, c'est un morceau de viande.
Et on ne sait pas quelle est cette
voilà,
viande.
Voilà, ça c'est une xéra que les Chachamim ont fait. On ne sait pas d'où vient cette viande. C'est une xéra particulière qu'ils ont fait sur les morceaux de viande. Parce qu'il y avait un problème à cette époque-là, c'est que les goyim s'amusaient à échanger les viandes avec les juifs. Il y avait des goyim qui travaillaient chez les juifs, et ils s'amusaient à échanger les viandes pour embêter les juifs. Donc depuis les Chachamim ont fait une xéra, ils ont dit, toute viande qui a quitté le regard, on ne peut pas la manger.
Mais la preuve que non.
Non.
Non, là, c'est une bête,
c'est pas une viande.
C'est pareil.
Mais pas du tout.
Tu reconnais la bête.
Tu reconnais la bête, tu vois qu'elle est cachère.
C'est pas du chat, du radis.
Tu peux être égorgé par un goïm qui s'est amusé.
Non, mais le goï,
même si elle est pas cachère, même si la shrita n'a
pas. Non, un goï s'amuse pas à ça. Le goï, le seul rechage qu'on a, c'est une viande qui est névéla. C'est-à-dire qu'une bête qui n'était pas cachère. Là, j'ai pas trop l'œil, là, parce que je vois que l'animal est cachère.
Entre le moment où tu l'as perdu et le moment où elle a la shrita, parce qu'elle a pu se blesser.
Elle a pu se blesser. Mais je vois, j'ai l'animal devant moi.
Mais si c'est pas un juif qui l'a égorgé.
Attends, j'ai l'animal devant moi. Il est pas, je vois qu'il est pas blessé, je vois qu'il est en bonne santé, je vois qu'il est.
Il est mort.
Il est mort, ah oui, non, d'accord.
Il va bien, tu vois,
je vois qu'il est en bonne santé, les poumons sont cachés, tout est caché.
Alors tu regardes tout par les poumons.
Le seul problème, bien sûr. Le seul problème, c'est savoir. Le seul problème que j'ai ici, c'est mon animal que j'ai perdu, que j'ai retrouvé. Le seul problème que j'ai ici, c'est est-ce que la shrita était bonne ou pas.
Mais peut-être entre le moment. Dans ce moment-là, il y a peut-être un animal qui est venu, un rat ou une souris. Qui a sucé le sang, qui a mélangé son sang avec l'animal.
Et qui a quoi ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quel rapport ?
Si par exemple...
Alors ?
Une chose changée ?
Tu manges dans le sang du rat ?
Quel rapport ? Je vais comprendre.
Le rat, il est blessé parce qu'il s'est battu avec un autre rat. Il arrive, il suce le... Il mélange son sang avec le sang de la bête.
C'est salive, tu veux dire.
On connaissait pas ce problème, il fallait voir en tout cas. Il disait avec les rats.
Alors, je vais te dire, si tu suces cette halakha, ce sera comme l'halakha des...
Tu parles de problème d'hygiène, là, c'est pas un problème d'halakha.
Non, mais en même temps,
je sais pas.
Le premier sang, il est parti, là, quand tu fais la cache-croûte.
Statistiquement, il n'y a pas de rat qui vient dans une synagogue.
C'est pas une synagogue, là. C'est sur le chemin...
Non, il est dans un endroit à forte... Il est dans un endroit à forte affluence juive, mais qui n'appartient à personne. C'est pour ça que je pense qu'un meilleur exemple, c'est la cour du synagogue. Je laisse mes poules dans la cour du synagogue, je reviens 3 heures plus tard, et la shrita est déjà faite. Y a un problème, non?
Il y a un problème. Hein.
On a un chocret
somnambule. Le prophète Élie qui est venu.
Dans le cas où tu te trouves sur l'air d'autoroute.
Le cas où
tu te trouves sur l'air d'autoroute.
Voilà.
Parce que là, c'est quand même entre Sibérie et Tibériade.
Le cas est que c'est l'air d'autoroute, c'est pas un endroit à fort affluent juif. C'est pas le cas entre
Tibériade
et Tibériade, c'est un endroit à fort affluent juif, il y a que des juifs là-bas.
Alors
donc c'est pour ça qu'on pouvait le prendre. Mais dans l'air d'autoroute, il n'y a pas une forte affluence juive. Enfin, il y a une forte affluence, mais c'est pas des juifs, je peux pas le prendre. C'est-à-dire, je peux le prendre, mais je peux le revendre. Je peux pas le prendre pour moi.
Okay, à qui je revends ?
Pas le un goy ?
Ok, d'accord.
Je vais le vendre à un goy ?
Oui.
Très bien. Ok. On continue la Gemara. Elle dit Amarava.
C'est-à-dire ça reste.
D'accord. Oui, parce qu'il reste quelques lignes pour arriver à la Mishnah, c'est dommage, hein.
Je voulais donner un truc pour étoffer qui est très très joli.
Ah, parce que déjà, il y a plusieurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, il y a la majorité qui n'était pas là, donc au moins...
On
commencera le... Après le Pessah, on commencera la Mishnah. Amarava, Rava dit que Rav Knaanim, d'accord, Rava dit qu'en vérité on peut parler même d'un cas que la majorité des gens sont des Knaanim, sont des Cananéens, mais Rav Tabaché Israël, si la majorité des bouchers, donc la majorité des bouchers, c'est-à-dire pas des bouchers des Shochatim, sont des juifs. Donc il dit qu'on peut, si on veut parler d'un cas comme ça aussi. Encore une autre histoire que la Gemara raconte. Et on finit avec les histoires. Enfin, encore une autre histoire après. Rav Ami, Ashkar Parguiot. Rav Ami a trouvé des parguillotes. Vous savez ce que c'est des parguillotes ?
Ouais.
Ah, quand vous allez aujourd'hui chez Negev Gel, ils vous vendent des parguillotes.
Des morceaux de blanc.
Des morceaux de blanc de...
Des
coquelets. Très bien. Shrutot, Ben Tiberia et Tibori. Apparemment, entre Tiberia et Tibori, il y avait beaucoup de...
Ils aimaient cet endroit.
Donc il a trouvé des parguillotes. Ah, t'as les Kamed Rabias, il est venu devant Rabias, il y en a qui disent que c'est ni devant Ravasi ni devant Rabbi Yochanan, mais il est venu poser la question tout simplement au Beit Midrash. Bon, c'est l'histoire, du coup, on se rappelle de l'Alacha, mais on ne se rappelle pas comment ça s'est passé. Vamrele, ils lui ont dit, Zushkol les Nafshar, tu peux les prendre pour toi. C'est la confiance qu'on vient de dire. Ah oui, c'est très fort. Shrutot, avec la Shrita. On considère que la Shrita était bien faite. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence de juifs. Encore une histoire. Rabbi Yitzhak Nafra. Il y avait un Moré qui s'appelait Rabbi Yitzhak Nafra, le forgeron. Il était forgeron. Ashkar Kibora, des Azlebe Azlouye. Il a trouvé, d'accord, un rouleau de cordes, d'accord. Donc c'est un rouleau de cordes, ça veut dire, c'est avec des cordes, qu'est-ce qu'on faisait avec des cordes ? Des cordes avec lesquelles on utilisait pour faire des filets. Très bien. Il a trouvé dans un endroit dans lequel il y avait beaucoup de pêcheurs de poissons. Atal et Kamed Rabbi Yochanan. Donc il y a une forte affluence. Donc même si il y a Siman, forte affluence. Va me prouver que c'est un endroit dans lequel il y a un seul pêcheur. Là dans ce cas-là on sait que ça appartient à lui, mais là il y a une forte affluence et on ne sait pas à qui ça appartient. Il n'y a pas de Siman distinctif pour dire que ça m'appartient à un pêcheur particulier.
Ah c'est sûr.
D'accord ? Atal et Kamed Rabbi Yochanan, il est venu Rabbi Yochanan, il y avait un Siman. Vamrele, Yanakis Bevu Midrasha, Vamrele, ils ont dit, Zilchkol et Nafchar, les commentaires disent même s'il y avait un siman.
Ah oui.
D'accord? Et ils lui ont dit, Zilchkol et Nafchar, tu peux le prendre. Et la conclusion de la Gemara est comme ça.
Comme Rabbi
Shimon ben Elazar. Que même si j'ai trouvé, donc pour conclure, on a eu beaucoup d'histoires aujourd'hui, c'est intéressant, on a conclu que même si j'ai trouvé dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, à plus forte raison si c'est une majorité de non-juifs, c'est quoi la halakha?
On le garde.
Même s'il y a un siman, si c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, et que on considère que le propriétaire initial l'a abandonné, donc le cas du portefeuille avec une
ça marche pas,
d'accord. Mais dans la majorité des cas, le propriétaire l'a abandonné. Un Mont Blanc. Un Mont Blanc.
Ouais.
D'accord. Dans un endroit d'une forte affluence. Il l'avait abandonné.
Sauf si elles initiales.
Halakhiquement parlant, même si elles initiales.
Tu vas dans un marché, ton
je trouve un Mont Blanc dans une synagogue.
Quelqu'un va chercher les initiales.
Shabbat, je ne touche pas.
Halakhiquement parlant, je peux le prendre. Si c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence. Halakhiquement parlant, je peux le prendre. Mais l'ifni Mishurat Adin. Si vous comportez mieux que le dîme, tu vas quand même proclamer et tu vas quand même le rendre. Mais oui. Halakhiquement parlant, tu peux le garder.
Le prophète, ça a
pourquoi même... Parce que statistiquement parlant, on considère que le propriétaire l'a déjà abandonné. Et une fois que le propriétaire l'a abandonné, même si après tu retrouves le propriétaire initial, Dieu il fait qu'on se retrouve. Il dit mais c'est mon Mont Blanc, je l'ai perdu il y a 2 mois. Il ne reprend pas son Mont Blanc, pourquoi? Parce que c'est fini, il a abandonné. Et une fois qu'il a abandonné, c'est fini, c'est à quitter le propriétaire.
L'autre qui veut faire plus que la qui lui rend.
Oui.
Même s'il avait fait Yéhouch.
Bien sûr, hein, oui, bah que tu veux faire plus que le dîme, c'est pas même. Il a fait Yéhouch.
Oui, il a fait pendant 12 mois.
Tu pourras, les gens, à l'époque les gens étaient très pauvres.
Voilà, ça reste ici.